Bonsoir Guillaume Leblanc.
Bonsoir.
Nous allons oser pleurer avec vous ce soir, avec votre livre qui est sorti aux éditions Albin Michel. Pourquoi oser ?
Ben, les pleurs sont toujours une forme d'audace, en fait, parce qu'elles interrompent tout simplement une fonction, une habitude, une routine. Et donc, cette interruption, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on ravale, au sens où on ravale ses larmes, ou est-ce qu'on ose les laisser couler sur le visage ? C'est déjà une question, en quelque sorte, de courage qui se pose avec les larmes. Et c'est très intéressant parce que, si vous voulez, dans l'imagerie populaire, on imagine volontiers que les larmes viennent de façon purement passive. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'involontaire dans la venue des larmes sur le visage. Et en même temps, il y a ce moment où les larmes pourraient disparaître et où il faut les laisser peut-être couler jusqu'au bout pour qu'elles puissent vraiment nous indiquer quelque chose de notre existence.
Vous êtes professeur de philosophie politique et sociale. En quoi les larmes, le fait de pleurer, le chagrin est un sujet qui rencontre votre profession ?
Profession, je sais pas, parce que je m'estime pas être un professionnel, donc vocation, je dirais plutôt que profession. Mais ce qui est sûr, c'est que ça rencontre la question politique, au sens où dès le départ, finalement, si on s'intéresse à l'histoire des larmes, dès que l'on a commencé à mettre des mots sur les larmes, peut-être qui sont elles-mêmes des effets d'autres mots, MAUX. Si on a commencé à mettre des mots sur les larmes, c'était pour les domestiquer, les assigner à une place qui était la fausse rébellion. Sénèque, par exemple, lorsqu'il parle des larmes, nous dit que pleurer, se plaindre, gémir, c'est se rebeller. Mais cette rébellion, elle est négative pour le stoïcien qu'est Sénèque, parce qu'en réalité, il s'agit justement d'accepter l'ordre du monde. Il s'agit de se montrer en philosophe impassible. Et les larmes sont une sorte de réaction excessive de la sensibilité à ce qui survient, à nos existences. Et philosopher, c'est apprendre à être justement hors des larmes, à être indifférent à ce qui survient. Et c'est un geste d'autant plus impressionnant du point de vue de la naissance de la philosophie que les Romains, les Grecs pleuraient beaucoup et que la suspension des larmes par la philosophie est une décision d'interrompre finalement une activité très ordinaire, au point d'ailleurs que c'est même, on a une sorte de scène, matricielle presque, dans le Phédon de Platon, lorsque Socrate est accusé par les juges athéniens de corrompre la cité en introduisant de nouvelles divinités et en corrompant la jeunesse, tout un programme que l'on retrouve bien aujourd'hui encore une fois sous d'autres formes. Il est condamné à boire la ciguë et donc il est condamné à mort. Et le Phédon nous montre Socrate dans les derniers instants de sa vie. Et là, on a un partage très intéressant entre d'un côté les amis, la femme de Socrate qui pleure tellement qu'elle est renvoyée en dehors carrément de la cellule, et les amis de Socrate, Phédon, à commencer par Phédon, qui se cache pour ne pas pleurer, Criton qui, lui, se répand en larmes, et Apollodore qui produit un gémissement tellement horrible que tout le monde est affecté, à l'exception, nous dit Platon, de Socrate. À l'exception de Socrate, ça veut dire, c'est très intéressant dans la formule à l'exception de Socrate. Ça veut dire que, au fond, faire de la philosophie, c'est s'excepter des larmes, c'est se retirer des larmes, et c'est produire donc un partage entre le naturel philosophe impassible qui est tout entier dans la contemplation des idées et pour lequel philosopher, c'est vraiment apprendre à mourir dans son corps, dans le sensible, pour renaître à la contemplation des idées, et les autres, les apprentis, mais qui sont pas vraiment philosophes, qui aimeraient bien l'être, et qui, eux, se répandent en larmes. Ce partage-là, entre le corps larmoyant et l'âme impassible, est constitutif de la naissance de la philosophie. Une scène d'écriture se met en place, et c'est cette scène d'écriture du partage qu'il m'a intéressé en tant que philosophe, entre guillemets professionnel, en tant que philosophe, de contester, en revenant à un autre geste philosophique qui n'est pas celui de Platon, hein, mais qui est au contraire celui que Nietzsche, par exemple, aura développé, notamment dans ses fragments posthumes, lorsqu'il explique qu'il faut prendre le corps pour fil conducteur, et que prendre le corps comme fil conducteur, c'est un déplacement radical de l'analyse, c'est un autre paysage philosophique qui apparaît, où cette fois-ci, peut-être, les larmes peuvent trouver leur place. En tout cas, j'ai essayé de déplier le paysage des larmes à l'intérieur de la scène philosophique ouverte par Nietzsche, en contestant le partage, ce partage originaire, entre les larmes ordinaires et l'impassibilité du philosophe.
Alors, vous citez beaucoup de philosophes, et on voit bien que c'est une question qui a toujours intéressé l'homme, qui a toujours été sujet à réflexion. Mais voilà, vous nous prenez un petit peu par la main pour nous arrêter finalement sur aussi les clichés, l'imagerie des larmes. Alors notamment dans ces clichés, on voit bien que les larmes sont associées à une forme de faiblesse. Vous dites aussi cette phrase que je trouve magnifique, vous dites les larmes ont été confisquées aux hommes. Et vous citez à ce moment-là Olivia Gazalet et son livre qui parle de la virilité. C'est un livre assez magistral aussi. Vous parlez aussi des larmes qui sont censées être finalement en privé, alors que c'est un langage. Donc, quand on a terminé votre livre, on a l'impression que finalement, on a tout faux sur l'interprétation et la représentation des larmes.
Ben, disons que les larmes, c'est aussi ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est de prendre un élément aussi fugitif, évanescent et presque éphémère que les larmes, parce que les larmes, une fois qu'elles sont apparues, leur caractéristique, c'est de disparaître du visage. On ne nous voit pas pleurant tout le temps. Donc il y a une interruption qui définit le fait même de pleurer. Pleurer, à un moment donné, c'est cesser de pleurer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une histoire des larmes, qui est une histoire des représentations des larmes, qui est très intéressante parce que on voit que si on pleure à toute époque et dans quasiment tout espace, on ne pleure pas de la même façon. Les pleurs ne sont pas le même langage, en quelque sorte. C'est vrai que c'est au 19e siècle, essentiellement, au moment où, d'ailleurs, et je crois qu'il y a un lien, c'est ce que je suggère dans le livre, c'est au 19e siècle, au moment où la psychanalyse se met à coucher, en quelque sorte, sur les divans, les corps des femmes, essentiellement, pour qu'elles confient à l'analyste leur souffrance, leur hystérie, etc. C'est le moment où il y a cette hystérisation du corps de la femme renvoyée à l'espace privé interne, que le partage va s'élaborer entre les pleurs privés des femmes et l'absence de pleurs des hommes qui, eux, doivent se consacrer à l'espace public. Ce n'a pas toujours été ainsi, puisque, au contraire, au XVIIe et au XVIIIe siècle, les bourgeois, par exemple, imitent les aristocrates qui pleurent énormément et qui pleurent en public. Donc l'idée que les pleurs soient associés aux femmes, par extension, une extension qui est vraiment douteuse, à la faiblesse et à l'espace privé, est une idée complètement historique. C'est un montage historique. Et si on revient à la Grèce et à la Rome antique, les héros grecs, par exemple, pleurent énormément. Achille, enfin dans l'Iliade, on pleure pas à toutes les pages, mais presque. Et César, c'est documenté par des historiens romains, lorsqu'il franchit le Rubicon pour atteindre Rome, pleure devant ses soldats, parce que les pleurs sont une manifestation de la bravoure. Les généraux romains pleurent pour montrer leur courage. Donc, les pleurs sont associés à la virilité, au même titre d'ailleurs que la semence. Et il y a toute une ontologie, entre guillemets, des liquidités, qui caractérise la virilité masculine, dans laquelle s'inscrivent les pleurs, justement. Et cette dimension en quelque sorte des pleurs, se transforme. Le partage, l'idée qu'il y a un genre des larmes, est vraiment une invention du 19e siècle qui a été, heureusement, remise en question par les différentes révolutions féministes qui, en repensant les partages de genre, permettent également des transformations substantielles sur les corps des hommes et donc aussi sur leurs pleurs.
Mais elle fait des dégâts quand même, cette transformation. Elle fait des dégâts, puisque vous dites que c'est très important, puisque finalement, les larmes, c'est le récit d'une vie psychique enfouie.
Oui, alors je ne dirais pas qu'elle fait des dégâts. Je dirais qu'il y a une... On a assisté dans l'histoire des larmes à quelque chose comme une privatisation progressive des larmes qui sont de plus en plus référées à la dimension existentielle, à la dimension privée, alors qu'elles étaient au départ une politique, une rhétorique. C'est Tacite qui explique que les larmes sont les armes de ceux qui n'en ont pas. Ce qui est une expression très intéressante, parce qu'elle signifie qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance des larmes que l'on peut utiliser dans, sous une forme même rhétorique, dans les tribunaux. Et d'ailleurs, les avocats n'hésitent pas à utiliser cette puissance. Et je dirais que peu à peu, dans l'histoire des larmes, on assiste à quelque chose comme effectivement une invention de la subjectivité larmoyante. L'idée que quelque chose de soi, de son être interne, se dit dans les larmes et peut-être ne se dit que dans les larmes, ça, c'est quelque chose qui est effectivement de plus en plus lié à la modernité, ce qui ne signifie absolument pas que la dimension politique des larmes va disparaître. Dans le livre, j'essaye justement, sous la forme de deux parties, hein, pleurs solitaires et pleurs solidaires, j'essaie justement de croiser les réflexions existentielles et les réflexions politiques, oui. En montrant qu'il y a aussi un phénomène très intéressant dans les larmes, mais on va y revenir sans doute, qui est la contagion des larmes.
Oui, vous parlez de ça. Alors vous parlez de la contagion des larmes. Vous parlez aussi du fait que les larmes sont finalement très attachées à la mélancolie, à la rage. Donc vous revenez, ça c'est deux éléments qui reviennent beaucoup dans votre livre. En revanche, je n'ai pas trouvé le mot détresse dans votre livre. Et ça m'a intrigué.
Peut-être qu'il faut se méfier de la détresse. Il y a des mots qui sont plus importants que celui de détresse. Détresse, c'est un jugement un peu d'évaluation. La détresse, qui dit la détresse de quelqu'un? Et précisément, les larmes racontent une autre histoire que celle de la détresse. Elles racontent l'histoire d'une vie qui est exposée à quelque chose qui lui arrive et qu'elle ne contrôle plus. Il n'y a pas peut-être de détresse dans mon livre, mais il y a une révélation que les vies, au fond, sont potentiellement, ne sont pas maîtresses d'elles-mêmes. Cette dimension de la maîtrise, dans maîtrise, il y a maître, cette dimension de la maîtrise de celui qui, par sa volonté, gouverne son existence, celui qui est souverain, qui est maître à bord, c'est précisément cette dimension qui, justement, va, au fond, être complètement rendu friable par la venue des larmes. Dans les larmes, je ne contrôle plus rien, je ne suis plus maître de ce qui m'arrive, et c'est pour ça que je dis d'emblée qu'il ne peut pas y avoir de cogito du pleureur. Je pleure, donc je suis, c'est une expression qui n'a strictement aucun sens, parce que en réalité, les larmes s'imposent à vous. Vous êtes l'otage des larmes, beaucoup plus que l'auteur des larmes. Et toute la question, et c'est là où il y a la dimension de l'audace, c'est un livre sur l'audace plus que sur la détresse, ça vous avez vraiment raison. Toute la question, c'est justement de savoir jusqu'à quel point on accepte ou non la venue des larmes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ces larmes? Qu'est-ce qu'elles disent? Moi, l'une des hypothèses philosophiques du livre, parce que c'est vraiment une philosophie des larmes, c'est-à-dire c'est une philosophie au plus près de ce qui arrive à quelqu'un, de ce qui m'est arrivé en tant que première personne qui pleure.
Vous parlez de votre histoire aussi.
Oui. Il y aurait une grande imposture à faire une philosophie des larmes sans être soi-même quelqu'un qui pleure. Le premier chapitre s'appelle « Un homme qui pleure ». Je dois dire que c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire de la philosophie avec ses propres expériences, avec sa propre existence, dans sa propre incarnation. D'une certaine manière, ce livre est au fond une réflexion sur un désir d'expérience. Pour moi, les larmes sont une expérience. Elles nous disent quelque chose. Et là où, dans les années 30, 1930, un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Walter Benjamin, écrivait dans le dénuement le plus complet, dans une pauvreté extrême, alors qu'il passait plusieurs mois sur l'île méditerranéenne d'Ibiza, un texte absolument magnifique qui s'appelle « Expérience et pauvreté », dans laquelle il disait que nous sommes devenus pauvres en expérience. Pauvres en expérience. Voulant dire par là que, finalement, les soldats revenant de la Première Guerre mondiale se situaient dans un mutisme, ne savaient pas quoi faire avec leur traumatisme, etc. D'une certaine manière, on peut même imaginer qu'ils ne parvenaient plus à pleurer. Benjamin thématise cette idée, nous sommes devenus pauvres en expérience, c'est-à-dire au fond, nous n'arriverons plus à transmettre nos expériences. Ça, c'est un livre qui essaie de relever le défi philosophique. C'est quoi un désir d'expérience? Comment peut-on constituer la philosophie au plus près de ce désir d'expérience? Et pour en revenir à ce désir d'expérience qui constitue pour moi l'épreuve des larmes à la première personne, c'est vrai que la question qui m'a intéressé, c'est de savoir justement que faire des larmes qui m'arrivent. Et là, je dirais qu'effectivement, ces larmes qui m'arrivent, elles font arriver quelque chose à celui qui les éprouve, et c'est ce que j'ai essayé de suivre. L'une des thèses philosophiques du livre, c'est que nous pleurons, en quelque sorte, dans trois régions du monde, enfin, dans trois régions du monde personnel, dans trois régions de notre propre univers. Nous pleurons là où nous avons mal. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'effectivement, si je vous fais mal, physiquement, vous allez sans doute vous mettre à pleurer, mais aussi si nous pleurons là où nous avons mal, métaphysiquement, quasiment. Et ce qui veut dire quelque chose de très intéressant, les pleurs ne sont pas simplement une forme de secousse, comme ça, quasiment organique, à un événement qui nous atteint, qui nous touche. Les pleurs sont déjà une sorte de discernement de la nature du mal. Quand on pleure, on comprend qu'on pleure là où ça fait mal, et donc on discerne encore plus le mal qui nous atteint. Et c'est sans doute d'ailleurs ça la raison pour laquelle on pleure davantage encore. Je dirais qu'on pleure là où nous avons mal, on pleure là où nous faisons l'épreuve de la rupture, qu'elle soit sous toutes ses formes. Quelque chose de notre vie est interrompu, et cette interruption, en quelque sorte, s'incarne dans les larmes. On pense à la rupture amoureuse, mais on peut penser aussi à la cessation d'un travail, au fait de ne plus d'être justement dans la rupture de son contrat de travail, de perdre sa santé. La rupture intervient comme une deuxième expérience des larmes, et puis pour moi, il y en a une troisième qui est fondamentale, évidemment, c'est l'expérience de la perte. La perte, évidemment, on pense à la mort, hein, au deuil, mais il y a d'autres pertes qui engendrent des circuits mélancoliques, la perte de sa santé, la perte de l'amitié, pas de l'ami, de l'amitié. Qu'est-ce que c'est quand on perd un ami? On perd une amitié. Mais cette perte de l'amitié, elle s'incarne dans un ami, mais il y a quelque chose qui disparaît. Bref, l'expérience de la perte, elle est vraiment aussi très, pour moi, fondamentale. Rupture, perte et mal sont pour moi les trois zones, en quelque sorte, dans lesquelles se mobilisent les larmes. Et sur cette dernière dimension de la perte, j'essaye de creuser une distinction philosophique la langue française permet, que ne permet pas la langue anglaise, par exemple, entre les larmes et les pleurs. D'où le titre « Oser pleurer ». Parce que l'une des trajectoires qui m'intéresse, hein, j'essaie de suivre des trajectoires lacrymales, donc une des trajectoires qui m'intéresse, c'est de voir comment les larmes deviennent des pleurs. Et j'analyse dans le livre, à propos de l'expérience du deuil, le fait que lorsque un être proche meurt et qu'on est submergé par les larmes, ces larmes sont directement liées à la perte, à la perte de l'être proche qui reviendra plus jamais. Et on sait que les rituels de deuil consistent d'une certaine manière à rendre raison de cette perte. C'est-à-dire que d'un point de vue ethnologique, ça a été très bien documenté par un ethnologue italien, Ernesto Di Martino, dans un livre de 1958 sur les rituels de deuil et les pleurs. Les rituels de deuil sont liés à la nécessité quasiment anthropologique d'accepter la mort du mort, c'est-à-dire de faire en sorte que, au bout de la perte, il y aura, et c'est quelque chose de très étrange à penser, mais quand même, il y aura la perte de la perte. Il faut d'une certaine manière faire mourir le mort une seconde fois pour pouvoir soi-même ne pas mourir dans la mort du mort. Et ça, c'est un point vraiment très très intéressant et très important parce que pour continuer à vivre, pour ne pas être affecté de la crise engendrée par l'absence, pour revenir, redevenir présent, il faut d'une certaine manière tuer le mort une seconde fois. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas? Qu'est-ce qui se passe quand, des mois plus tard, le mort, entre guillemets, continue à vous apparaître dans vos nuits, sous forme de rêve, continue à vous parler? C'est ce que j'appelle l'épreuve de la disparition. Et je fais une distinction entre la perte soudaine et la disparition dans laquelle quelqu'un ne cesse d'apparaître. Dans la disparition, une vie continue d'apparaître, mais en tant qu'elle est, en tant qu'elle a, et c'est tout le tragique, en tant qu'elle a disparu précisément. Et là, il y a une qualité des pleurs qui, me semble-t-il, est très différente. Autant je dirais que les larmes sont la réplique quasi sismique de la perte, autant les pleurs sont la visitation du disparu qui continue à être présent alors qu'il est absent. Et ça, je trouve que, par exemple, le cinéma l'a remarquablement montré, enfin mis en avant dans nombre de films, la capacité, justement, et c'est quelque chose qui m'est arrivé, donc c'est vraiment, là c'est pour le coup quelque chose de très ressenti sur ce plan-là. Que se passe-t-il lorsqu'on est visité par dans nos rêves, par nos morts? Ils nous apparaissent, on est en dialogue avec eux, mais ils nous apparaissent en tant qu'ils ne sont plus là. Ce sont des apparitions sur fond de disparition, et cette qualité de l'apparition-disparition, elle se mobilise dans des pleurs. C'est pourquoi on peut pleurer bien au-delà de nos propres larmes. On peut pleurer des années après, alors que les larmes sont apparemment, se sont effacées, ont disparu. C'est un point très intéressant, parce que je crois que par les pleurs, nous retenons encore les morts dans la vie, et cette capacité, en ce sens-là, est une capacité humaine absolument fondamentale.
Alors, en psychanalyse, je crois qu'on dit qu'un deuil dure 10 ans.
Oui.
Donc, ça fait quand même pas mal d'apparitions dans la disparition. Donc, il faut être patient. Quelle est exactement la différence entre les larmes et les pleurs? De quoi parlons-nous précisément?
Ben, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je pense que c'est une distinction sur le papier, hein, parce que bon, dans la réalité,
pour vous, maintenant que vous avez écrit ce livre, comment vous...
Justement, je pense que les pleurs offrent une capacité de dialogue avec les disparus que n'offrent pas les larmes. C'est aussi simple que ça. Dans les larmes, nous sommes pris dans le...
Les larmes, ce serait plus bergsonien, ce serait plus mécanique.
Alors là, je vais y venir. Merci pour la référence.
Mais de rien. Bergson,
qui est centrale dans
Mais
ce texte.
Rien.
Parce que j'ai imaginé un Bergson pleureur et non pas rieur, puisque Bergson a écrit un livre qui s'appelle Le Rire. Donc bon, mais avant de venir à Bergson, je veux quand même encore juste un peu frapper le clou, l'enfoncer encore davantage. C'est ça la philosophie, c'est marteler. Hein, donc je martèle en disant que effectivement. Je serais tenté d'interpréter les larmes comme la réplique sismique à un événement tragique, alors que les pleurs m'apparaissent comme un au-delà des larmes. C'est pourquoi des larmes aux pleurs, la conséquence n'est pas nécessairement bonne, au sens où on peut très bien arrêter les larmes et ne plus pleurer, comme on peut très bien aussi continuer les larmes dans une modification qualitative qui serait celle des pleurs et qui a à voir justement avec la manière dont nous existons à travers celles et ceux qui ne sont plus là. Alors ça nous ramène au vocabulaire de l'intensité sur le plan philosophique. Ce qui m'intéresse dans les pleurs, c'est au fond ce vocabulaire de l'intensité. Pour moi, dans ma pratique de la philosophie, je considère qu'un problème devient un problème philosophique lorsqu'il rencontre, en quelque sorte, trois plans distincts. Évidemment, lorsque je le rencontre existentiellement, ce problème je me laisse affecter par lui, lorsqu'il m'affecte littéralement. C'est ce qui s'est passé, évidemment, avec les larmes. Mais je dirais qu'il faut en plus deux autres conditions pour que le travail commence à prendre, au sens de même de la réflexion, de l'écriture. C'est il faut que ce problème extrêmement personnel soit aussi un problème extrêmement interpersonnel, un problème d'époque, un problème politique. Aujourd'hui, on ne peut pas penser les larmes sans penser les larmes en Israël, à Gaza, en Ukraine. Notre expérience historique et l'expérience de femmes et d'hommes pleurant les bombardements, pleurant les morts, et se demander jusqu'à quel point les larmes peuvent être renvoyées à leur destinataire, c'est se demander jusqu'à quel point les larmes peuvent être des armes. Et c'est ce cheminement que j'ai essayé de tracer dans le livre, en m'interrogeant sur certains phénomènes de contagion des larmes dans l'iconographie, par exemple la Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, par exemple de 1928, film exceptionnel qui montre Jeanne d'Arc pleurant lorsqu'elle est au bûcher et une assemblée de pleureuses autour d'elle, et puis une assemblée même d'hommes entourant les pleureuses. D'où va procéder une révolte à partir de ces larmes contre les Anglais. Et ça, Didier Huberman, dans son livre « Peuple en larmes, peuple en armes », le montre très très bien à propos d'un autre film, qui est « Le cuirassé Potemkin » d'Eisenstein, où Eisenstein filme la révolte d'Odessa et où on voit une femme pleurant la mort de son bébé et à l'origine des soulèvements, à l'origine des révoltes, ce qui montre que pleurer n'est pas simplement, et ça c'est l'une des thèses centrales de mon livre, pleurer n'est pas un acte de consolation. J'interromps, si vous voulez, le fil qui relierait les larmes à la consolation pour montrer que les larmes sont beaucoup plus du côté justement d'une audace, donc d'une possibilité de soulèvement, d'une demande de justice que du côté d'une forme de consolation. Bien sûr, il y a une dimension entre guillemets médecine dans les larmes. Pleurer fait du bien là où on a mal. Mais cette dimension de médecine consolatoire, je crois qu'elle ne dit pas toute la dramatique des larmes. que l'on peut retrouver lorsqu'on réfléchit à trois verbes qui sont essentiels. Pleurer, évidemment, mais deux autres verbes avec lesquels j'ai essayé de dresser une série, implorer et déplorer.
Donc,
deux verbes,
trois actes solidaires.
C'est ça. Voilà, des actes qui deviennent solidaires, là où pleurer peut être au départ quelque chose de plus solitaire. Deux verbes qui interviennent, qui apparaissent dans la langue française au XIIe siècle et qui signifient en quelque sorte deux trajectoires possibles pour les larmes. Pleurer peut donner lieu à la déploration, c'est-à-dire à la lamentation permanente. Mais pleurer peut donner lieu aussi à une transgression de cette déploration, à une imploration au sens fort du terme. Qu'est-ce que c'est qu'implorer ? C'est demander avec des larmes. Et si l'on demande avec les larmes, c'est que les larmes finissent par être une demande. Une demande de quoi ? Une demande de réparation adressée à quelque chose qui est vécu comme un tort. Et très souvent, cette demande de réparation, elle survient lorsque se commet, lorsque se produit pourtant de l'irréparable. J'en veux pour preuve en Afrique du Sud, la fin de l'apartheid et la mise en place d'un tribunal régi par l'idée de la vérité et de la réconciliation. Ce tribunal très particulier qui essayait d'associer les victimes aux bourreaux sous forme de récits circonstanciés, etc., a été très vite rebaptisé par les Sud-Africains le tribunal des larmes. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a dans la dimension des larmes une demande de justice qui est adressée par rapport à quelque chose qui est vécu comme un tort. Et je trouve que ça, c'est une idée très intéressante que de réfléchir en termes de justice, mais non pas d'un point de vue abstrait, du point de vue des droits, etc., mais du point de vue d'une généalogie, au fond, sensible de la justice.
Alors, et c'est cette partie-là, vous la développez vraiment longuement dans votre livre, mais ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que parallèlement à ce parcours philosophique, vous vous adressez aussi, j'ai envie de dire, au Kidam, qui n'est pas spécialement... qui n'est pas facilement connecté à une pensée philosophique, parce que vous nous réconciliez avec les larmes et les pleurs en nous disant les pleurs sont à l'origine de la justice, c'est-à-dire que pleurer demande un courage de dingue à une époque où finalement on se sent coupable de pleurer, à plus forte raison dans un lieu public. Il y a quelque chose qui est associé à la honte dans l'univers populaire. Dans votre livre, vous nous dites, mais non, c'est une façon de communiquer à l'autre ce que des mots ne peuvent pas dire et de demander justice. Donc, finalement, de générer presque une demande de cesser le feu. Sauf que, au lieu que ce soit avec des mots, à partir du moment où c'est fait avec des larmes, là, vous rentrez dans une dimension très intéressante. Vous dites, à partir du moment où c'est avec des larmes, c'est une preuve d'humanité. Celui qui ne pleure pas banalise le mal. Celui qui pleure est bien dans le réel. Et donc, à ce moment-là, communique finalement les larmes et les pleurs et donc rentre dans une communauté, celle de ceux qui sont capables de pleurer.
Oui.
Et à cet endroit-là, vous touchez tous les lecteurs, y compris ceux qui ne sont pas intéressés par la philosophie, mais ceux qui pleurent tous les jours, ceux qui pleurent pour une rupture, pour une douleur. Parce que tout à l'heure, vous disiez... le mal, le deuil et la rupture, mais en réalité, les trois sont intimement liés, puisque la rupture fait mal, le deuil est une rupture, etc., etc.
Exactement. Alors, je pense que dès qu'on pleure, on est intéressé par la philosophie, parce qu'en réalité, on fait de la philosophie, mais en réalité, tout le monde fait de la philosophie à partir du moment où chacun commence à réfléchir sur ce qui lui arrive. Donc la philosophie, c'est vrai que bon, il faut pas la cantonner à une espèce de spécialité qui ferait peur. Dans le livre, j'essaie de la traverser de la manière la plus ordinaire possible, en la liant aussi à des figurations, en essayant de reprendre des scènes au fond artistiques, culturelles, littéraires.
Oui, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Vous parlez parce par exemple d'Obama, vous parlez enfin
oui, voilà, parce que
de Charlie Hebdo, etc.
Je pense qu'on peut arriver à saisir beaucoup de choses par au fond, des exemples dont la littérature, hein, par exemple, ou qui sont travaillés par les écrivains, et de manière absolument directe, on touche quelque chose de vraiment très intéressant. Par exemple, sur la question des larmes qui forment une humanité, qui nous retiennent dans l'humanité, je crois effectivement que les pleurs, c'est l'humanité, ce qui suppose que... justement, il y a un au-delà de l'humanité qui serait l'inhumain et qui supposerait l'absence de pleurs. Enfin, je crois qu'on commence à devenir inhumain lorsqu'on cesse de pleurer, lorsqu'on n'envisage même plus la possibilité des larmes. Et ça, c'est quelque chose qui a été documenté presque de manière presque terrible par certaines personnes, j'en cite une, rescapées des camps de concentration,
oui.
Qui ont appris volontairement pour survivre dans les camps à ne plus pleurer. Parce que pleurer, c'était encore rester humain, et rester humain dans un camp, c'était être trop fragile. C'était être, d'une certaine manière, trop vulnérable. Les pleurs nous retiennent dans l'humanité, et c'est pour ça qu'il est très important de penser, lorsqu'on pense à l'égalité des vies, de penser à l'égale pleurabilité des vivants. C'est une thématique à analyser la philosophe américaine Judith Butler lorsqu'elle explique de manière très forte qu'il faut justement envisager l'égalité devant la pleurabilité. Une vie n'aura été vécue, au fond, elle utilise le futur antérieur, et moi je trouve qu'il y a une force du futur antérieur. Une vie n'aura été vécue que si elle peut être pleurée. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui n'est pas pleurée, qui pourrait ne pas être pleurée, qui n'aura pas été pleurée? C'est une vie qui n'aura pas été appréhendée comme une vie pleinement humaine. Et on sait, par exemple, que dans l'organisation des rituels, des commémorations politiques, si on pense aux commémorations du 11 septembre, on sait que, alors même qu'on a organisé, les États-Unis ont organisé des rituels pour pleurer leur mort, on sait que ces rituels qui ont fait réapparaître les visages des disparus dans un acte de commémoration qui appréhende l'existence comme ayant été vécue, on sait que même là, ces rituels ont effacé certains visages. Je pense à tous les migrants sans papier qui travaillaient dans ces tours et qui ont été tués avec les autres et qui n'ont et dont la mort n'a donné lieu à aucune commémoration, puisqu'ils étaient non documentés, entre guillemets. Et on peut aussi réfléchir à la manière dont les génocides en Afrique ne donnent pas lieu à des larmes collectives. Bref, les larmes collectivement nous retiennent dans l'humanité. Et c'est pourquoi il est important de penser des rituels de larmes. Mais je voudrais revenir juste pour un bout à une scène matricielle qu'on trouve dans la littérature, et c'est un passage absolument magnifique de, là encore, de l'Iliade, d'Homère. C'est lorsque Priam, le vieux Priam, qui a perdu son fils Hector, le valeureux Hector, se rend comme un vieillard opiniâtre devant cette espèce de tête à claque qui est Achille, qui est vraiment le combattant, le morveux, qui a l'arrogant, se met à pleurer devant lui. C'est une scène absolument magnifique, parce que dans un premier temps, Achille le regarde comme avec un mépris, enfin le toise d'un regard méprisant, parce que Priam veut lui demander le corps de son fils pour pouvoir produire un acte de sépulture, et pour pouvoir honorer le mort, aussi sur le plan politique d'ailleurs, qui est Hector. Et Achille refuse de manière très dédaigneuse. Et puis il y a cette espèce de coup de génie de Priam qui produit devant Achille une imagination. Il demande à Achille d'imaginer son père, le père d'Achille, apprenant la mort de son fils, donc la mort d'Achille. Et il lui demande d'imaginer ses larmes. Il lui dit que comment serait ton père s'il apprenait la mort de son fils? Il se mettrait à pleurer. Et à ce moment-là, on a quelque chose de très beau dans le texte, qui est que Achille, d'un seul coup, cesse d'être ce guerrier arrogant. Il se représente son père pleurant le fils qu'il n'est plus, et il se met à pleurer à son tour. Et il y a une, avec les larmes de Priam, il y a une espèce de contagion des larmes qui a une efficacité directe, puisque Achille, à ce moment-là, va rendre le corps d'Hector à Priam, qui va du coup faire une véritable offrir une véritable sépulture et un véritable deuil à son fils Hector. La contagion des larmes, c'est ce qui permet déjà, même entre deux ennemis aussi jurés que Priam et Achille, de constituer une communauté d'humanité. Et là, et le fait que cette communauté d'humanité très éphémère apparaisse dans un récit de guerre a quelque chose pour nous, les contemporains de temps de guerre, de vraiment bouleversant.
Et à cet endroit aussi d'absence de rituel, on pense évidemment aux années du Covid et bien entendu, oui. Donc voilà, l'absence de possibilité d'enterrer les morts. Est-ce qu'il y a un désir de renaissance dans les larmes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à l'espoir d'un cessez-le-feu pour mieux renaître?
Je pense que ça, c'est une des hypothèses qui traversent le livre. C'est que il faut faire un renversement dans les perspectives de temps pour penser les larmes. Là où nous prenons, où nous pensons les larmes comme au fond une réplique d'un événement qui s'est écoulé et donc qui est de l'ordre d'un passé. Mmh. Là où nous pensons les larmes comme la réplique d'un événement passé qui ne passe pas. Je crois qu'il faut penser au contraire que les larmes, en s'écoulant, ouvrent une issue possible, ouvrent la possibilité d'un chemin vers le futur. Et donc, ce que j'essaie d'analyser dans le livre, c'est cette espérance des larmes. Au fond, les larmes ne sont pas une résignation face à ce qui est arrivé, un enfermement dans la tragédie de ce qui est arrivé. Les larmes dessinent une promesse de futur, et cette promesse de futur, je l'analyse, elle circule dans tout le livre. C'est une promesse de recommencement. Pleurer, c'est au fond imaginer que l'on peut, que l'on pourra recommencer. Pleurer, c'est imaginer qu'il y a la possibilité d'un futur et non pas que l'on est contraint à se résigner à ressasser un passé. Dans le très beau poème de Victor Hugo, là aussi sur sa fille Léopoldine. Je suis très sensible par le fait que quand il dit « Demain, dès l'aube, etc., à l'heure où blanchit la campagne, je partirai », je suis très sensible au fait que il n'y a pas de larmes dans ce poème. Et pourtant, il parle de la mort de sa fille. Et il ne peut rien arriver de plus tragique que la mort de son enfant pour quelqu'un. Et donc, il faut imaginer quand même que... on doit imaginer Victor Hugo en larmes. En quelque sorte, dans l'atmosphère de l'écriture de ce poème. Et pour autant, ce qui apparaît dans ce poème, c'est, vous l'avez remarqué, j'en suis sûr, déjà, c'est un futur. Je partirai. C'est une résolution. C'est tout le poème est écrit en quelque sorte sur le ton de la résolution qui semble ouverte par l'expérience des larmes antérieure à l'écriture du poème. Et là, il y a quelque chose de très fort. C'est que les larmes, justement, en ce sens-là, désignent la possibilité d'une renaissance, là où on aurait tendance à les penser comme un chemin de résignation.
Vous parliez tout à l'heure du fait que finalement, c'est très philosophique de pleurer. Est-ce que ça veut dire aussi que accepter de pleurer, accepter finalement de lâcher quelque chose, d'abandonner, induit une capacité à douter?
Ça induit une capacité, je dirais, et du coup, votre question me permet de revenir à notre fameux Bergson.
Chouette.
Voilà, que j'avais oublié
et
sur
oui,
le chemin.
J'ai bien
mais
vu.
Qui réapparaît tel un génie sorti de sa boîte. Ça me permet de faire revenir Bergson, parce que je dirais que les larmes font surgir une intensité qui est qui traverse une existence et qui ne peut la traverser que dans la mesure où elle affecte complètement cette existence. Et là, je voudrais revenir à mon Bergson pleureur auquel je tiens, parce qu'effectivement, Bergson a écrit un livre donc qui s'intitule Le Rire, dans lequel il dit au moins, il dit au moins deux choses très importantes. Il dit que le rire est une mécanique plaquée sur le vivant. Donc on rit chaque fois que là où on a un phénomène vital, on s'imagine un mécanisme qui se répète, une espèce de comique de répétition. Par exemple, je sais pas, dans quand l'avare dans Molière dit ma cassette, ma cassette, ma cassette, et qu'il le répète en permanence. Bon, comique de répétition, c'est une mécanique plaquée sur du vivant. Dans la vie quotidienne, c'est rare, même si on connaît des avares, c'est rare d'entendre des personnes qui répètent en permanence ma cassette, ma cassette, ma cassette. Donc c'est une mécanique plaquée sur du vivant. Et il dit aussi par ailleurs que le rire est un geste éminemment social. Le rire produit un groupe de rieurs. Et un groupe de rieurs, c'est qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui, en riant, confirment leur appartenance au groupe. Je ris, donc j'en suis. C'est pas je pleure, donc je suis, c'est je ris, donc j'en suis. Et ce que je trouve très intéressant dans les pleurs, c'est que d'une certaine manière, ça nous force à penser à l'envers de ce dispositif bergsonien. Les larmes ne sont pas, bien évidemment, une mécanique plaquée sur du vivant. Je dirais que c'est le contraire. C'est de la vie qui, d'un seul coup, de façon non préméditée, de façon involontaire, donc en dehors de la pensée, c'est de la vie qui s'infiltre dans toutes nos mécaniques les plus habituelles, dans nos routines, dans nos modes de fonctionnement, et qui, à ce moment-là, les défait complètement. C'est ça, les larmes. C'est une intensité qui nous arrive et qui vient tout mettre par terre. Ce qui fait que le pleureur, d'un seul coup, quand il pleure, est comme extrait, même s'il est dans un groupe, il est seul avec ses larmes. Il est extrait de ce groupe parce que précisément pleurer, c'est s'exfiltrer du groupe. Autant rire, c'est entrer dans le groupe, autant pleurer, c'est vraiment s'exfiltrer du groupe. Ce qui fait que quand vous êtes devant quelqu'un qui pleure, vous êtes désemparé. La seule réponse qui pourrait venir, c'est de soi-même pleurer. Mais contagion des larmes, là encore. Mais que se passe-t-il quand on pleure et qu'on voit quelqu'un, parce qu'on voit quelqu'un pleurer? Ce n'est pas qu'on se représente l'autre comme affecté d'une très grande tristesse. Oui, bien sûr, il y a une forme d'empathie, c'est évident. Mais en même temps, on se représente la tristesse de l'autre comme sa propre tristesse à soi-même. Et c'est pour ça qu'on pleure. On pleure avec ses larmes et non pas avec les larmes de l'autre. Les larmes sont toujours une dimension irremplaçable de l'existence. Et c'est cette dimension de l'irremplaçable qui caractérise la valeur des larmes. Donc je dirais que par rapport à toute cette thématique de l'intensité qui arrive, je crois que c'est ça vraiment l'univers des larmes. Au fond, penser les larmes, c'est penser les intensités. Et dans la vie, il n'y a rien de plus intéressant que les intensités. Les intensités, c'est ce qui nous ravit littéralement. Et même jusqu'aux larmes, les intensités, c'est ce qui nous submerge et c'est ce qui nous défait des routines. Bergson était un penseur des intensités vitales, vraiment. C'est quelqu'un qui a essayé de s'approcher de cette zone. Mais pour autant, il n'a pas pleuré. Il n'a pas connecté les intensités aux larmes. Et je crois que c'est une des hypothèses du livre aussi, que les œuvres d'art, au fond, pourquoi est-ce que nous... On est dans cette très belle librairie, donc pourquoi est-ce que nous lisons? Pourquoi est-ce que nous allons au cinéma? Je crois que nous lisons et nous allons au cinéma aussi pour pouvoir pleurer. Je crois que les œuvres d'art sont ce que Didi Huberman appelait un mot qu'il a forgé, qui est très beau. Il disait ce sont des émouvoirs. C'est-à-dire, ce qui permet l'ouverture, la circulation des émotions. Je crois que quand on rencontre un livre, quand on rencontre une œuvre, un film, c'est que on a composé dans son existence avec une émotion qui a été rendue de manière intense par une œuvre d'art. Et c'est cette rencontre avec une intensité qui nous fait accéder à, au fond, une vérité insoupçonnée de notre existence qui nous bouleverse.
Et en cela, donc vous nous démontrez bien que les larmes sont à la fois irremplaçables et en même temps, finalement, votre écriture nous pousse vraiment à avoir une forme d'admiration pour les larmes, ce qui est parfaitement contraire à l'époque dans laquelle nous vivons, qui est une ère dans laquelle on reçoit beaucoup d'injonctions à se contrôler, alors que vous nous invitez au contraire à presque mettre de la joie dans le fait de pleurer.
Oui.
J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que la peine a de la mémoire, selon vous ?
La peine, oui, bien sûr. Il y a une construction même de la mémoire dans la peine. Ça me semble quelque chose de très important. Et peut-être que du coup, vous suggérez par là que on pleure parce que aussi on a pleuré. C'est vers là que ça me semble aller. C'est-à-dire que effectivement, plus je pleure, plus je me souviens de ce qui m'a fait pleurer, plus je rentre dans une possibilité de pleurer, et moins je pleure, au contraire, plus je réfrène les larmes, et plus je rentre dans une forme de censure par rapport aux larmes. Mais par rapport à votre remarque initiale sur le fait qu'il y a une espèce de course au contrôle qui réfrène les larmes, il faut aussi penser qu'il y a une dimension, qu'il y a aussi une expression obligatoire des émotions, et que à certains endroits de la société, on l'a vu pour Charlie Hebdo, par exemple, on nous demandait en quelque sorte d'attester par nos larmes ou par nos émotions de chagrin ce qui s'était passé. Et ça, c'est une dimension de l'expression obligatoire des émotions qui a été vraiment très très bien restituée par le sociologue Marcel Mauss, qui montre que toute société, au fond, met en place une expression obligatoire de ses émotions, ritualise l'expression obligatoire de ses émotions et nous oblige à nous émouvoir d'une certaine façon. C'est très important de le penser parce qu'on pourrait croire, sinon, que les larmes seraient une sorte de paradis perdu intérieur qui serait la part sauvage à préserver de l'existence, alors qu'en réalité, il y a une construction d'un marché des larmes dans la société. Il y a ce que j'appelle, moi, des cibles émotionnelles. On nous fait pleurer sur tel petit enfant retrouvé sur les plages Turquie. C'est une cible émotionnelle, alors qu'on ne nous fait pas pleurer dans le même temps sur tel petit enfant retrouvé dans un pays d'Afrique, par exemple. Ça ne veut pas dire que les vies sont l'une et l'autre ne doivent pas être pleurées. Ça veut dire qu'il y a quelque chose comme une construction politique, médiatique, du caractère pleurable attaché à une scène, une existence.
Comme une autorisation, finalement.
Il y a effectivement la construction de cibles émotionnelles.
Bien sûr.
Et ça, c'est un point que l'on doit avoir en tête si on veut vraiment essayer de se demander dans quelle mesure un égal accès aux larmes est pensable, par lequel se manifesterait justement une appréhension égale de toutes les existences. Le drame des larmes, c'est qu'on pleure le proche, à défaut de pleurer le sujet lointain, sauf si justement le lointain devient une cible émotionnelle particulière, à partir de laquelle on va s'autoriser à nouveau à pleurer. Et là, il y a une inégalité de la relation aux larmes qui souligne combien les vies sont justement inégales jusque dans la manière dont elles sont pleurées ou ne sont pas pleurées.
Merci beaucoup, Guillaume Leblanc.
Merci.